qu'ils ont reçu un tract ou une affiche qui est ici que des paroissiens habituels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui vient pour la première fois ou qui n'est pas un habitué de la paroisse? Non. Donc nous sommes... voilà. Soyez les bienvenus. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors la fois dernière, le père Nathanaël a... Je vais m'asseoir si c'est, ça va. Le père Nathanaël nous a parlé de la façon dont notre vie, dès maintenant, est orientée vers le ciel, finalement. Et aujourd'hui, donc, je voudrais avec vous continuer un petit peu ce parcours, et on va en quelque sorte commencer par le commencement. On va regarder qu'est-ce qui se passe au moment de la mort et comment nous sommes appelés à vivre ce moment avec la foi. Qu'est-ce que l'Église nous apprend sur ce moment de la mort, sur la façon de le vivre dans l'Église? Et puis, quel est ce jugement ou ces jugements dont nous parle aussi la foi? Il y a deux jugements qu'on appelle le jugement particulier et le jugement dernier. Alors, on va essayer de regarder cela ensemble ce soir. Pour commencer, je voudrais faire une remarque importante qui concerne finalement pas simplement ce que je vais dire ce soir, mais aussi ce que nous allons dire les soirs suivants. Souvenons-nous que toutes les questions qui touchent l'au-delà, le Christ n'a pas voulu rentrer dans les détails. Il a voulu donner, au contraire, les clés pour notre salut maintenant. Et nous devons ne pas nous montrer trop curieux sur tous ces détails. Nous devons surtout chercher à connaître ce qui peut nous aider à guider notre vie aujourd'hui. Nous devons accepter que pour Dieu, nous sommes des enfants, des petits-enfants. Il ne peut pas tout nous dire en détail. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas les moyens de comprendre, pour lesquelles il n'y a pas de mots qui convient. Nous ne pouvons nous exprimer que dans le temps et l'espace, et au-delà, justement, c'est l'au-delà. Et il n'y a plus de temps et d'espace, en tous les cas, ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'il y a ici-bas. À des petits-enfants, on doit dire la vérité, mais on la dit en simplifiant, parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans des détails à des enfants, ils ne comprendraient pas. Simplifier, ça ne veut pas dire mentir ou dire des choses fausses. Cela veut dire qu'on ne peut pas tout expliquer. Alors c'est de cette façon que Dieu nous parle de l'au-delà, de son royaume, de la vie après la mort. Et c'est pourquoi il utilise souvent des images ou des paraboles. Et donc, nous accepterons que souvent, nous ne pouvons pas donner plus de détails, et c'est une acceptation que nous devons avoir, nous tous, ici-bas. Alors, la première question, que se passe-t-il au moment de la mort? D'abord, la foi distingue ce que l'on appelle la mort clinique, c'est-à-dire le moment où on constate médicalement qu'une personne est morte physiquement, et puis la mort métaphysique, qui elle est invisible à nos yeux, c'est le moment où l'âme est définitivement séparée du corps. Voilà, mort clinique, mort métaphysique. Alors regardons d'abord quelques mots sur la mort clinique. Vous le savez, elle est décrétée quand le cœur s'arrête de battre, que le sang n'irrigue plus le cerveau et donc que cela se traduit par un électroencéphalogramme plat. C'est la mort clinique. Il y a des états de coma profond qui peuvent s'approcher de la mort clinique, mais qui ne sont pas cette mort clinique. Les personnes n'ont plus de réaction par rapport au monde extérieur, même à la douleur. Mais à la différence de la mort clinique, dans ce cas-là, le cerveau est toujours vivant, l'électroencéphalogramme n'est pas plat, le cœur continue à battre. Dans ces états qui s'approchent de la mort clinique, qui sont des états de coma, il y a ce qui a été découvert depuis les années 70, ce qu'on appelle les expériences proches de la mort. Vous en avez sûrement tous entendu parler, EMI en français, NDE en anglais. C'est aux États-Unis que ça a été mis en évidence en premier. Je ne vais pas m'étendre sur ces expériences, je voudrais simplement rappeler qu'elles sont souvent décrites comme un moment où l'âme prend distance avec son corps. Souvent, la personne voit son corps, elle se trouve au-dessus et elle voit que son corps est inanimé. Souvent, elle décrit qu'elle passe par un tunnel qui débouche sur une lumière souvent merveilleuse et que cela s'accompagne souvent d'une vue instantanée de toute sa vie qui est vue comme en totalité tout d'un coup. Certaines expériences sont plus négatives, mais toutes ces expériences, en tous les cas, lorsque les gens reviennent à la conscience, ont des points communs. La première chose, c'est qu'ils ont la certitude que l'âme spirituelle existe, qu'ils ne sont pas simplement des personnes dans leur corps, et que cette âme spirituelle est distincte de la vie physique, puisque souvent ils ont vu qu'il y avait une différence entre le corps et l'expérience qu'ils faisaient. Ils ont la certitude que cette âme, elle est immortelle. Ils ont la certitude d'avoir vu quelque chose qui concerne une vie qui se déploie au-dessus, au-delà de la vie physique ici-bas, et que cette vie au-delà est infiniment plus belle que la vie ici-bas. Il y a une autre chose qui le plus souvent est présent, presque dans la grande majorité des cas, c'est la certitude que la vie est fondée sur l'amour, que la valeur profonde de la vie, c'est l'amour. La lumière qu'ils aperçoivent est une lumière de charité. Ils en sont traversés. Dans les expériences négatives, l'âme comprend qu'elle est appelée à vivre pour aimer, et qu'elle peut se perdre si elle persiste à vivre égoïstement. Tout ce qui est dit là, que ces expériences mettent en évidence, est déjà annoncé dans la parole de Dieu. Les EMI ne disent rien de nouveau, elles mettent simplement des images, des expériences sur cette dimension de la vie de l'âme, plus grande que la vie du corps. Mais à la différence de ce qui se passe au moment de la mort, c'est que dans ces expériences, ces EMI, il n'y a pas d'expérience de jugement en tant que telle, puisque l'âme revient dans le corps pour poursuivre sa vie. C'est en quelque sorte comme un point d'étape, une entrevue de l'au-delà et sur le sens de la vie, qui est faite par ces personnes. Concernant la mort clinique en tant que telle, on peut se demander s'il y a un délai entre cette mort clinique, cette mort physique, qui est constatée donc médicalement, et la mort métaphysique, qui elle est invisible, ne peut pas être constatée, et qui correspond, comme je le disais tout à l'heure, à la séparation définitive de l'âme du corps. Est-ce qu'il y a un délai? Eh bien, la tradition spirituelle de l'Église va dans le sens de dire qu'il y a un délai qui peut être de plusieurs heures entre ces deux morts. Ce délai est sans doute variable entre les personnes et cette dimension, cette variabilité est certainement aussi lié au degré d'avancement spirituel de la personne. Plus la personne est avancée spirituellement, plus la mort métaphysique intervient rapidement après la mort clinique. Tout ceci, ce ne sont pas des éléments de foi et de certitude absolue, mais des éléments qui ont été recueillis par la tradition, certaines personnes ont eu la grâce de voir cette mort métaphysique. Par exemple, un exemple très connu, Saint Benoît, avec sa sœur scolastique, voit l'âme de sa sœur sortir de son corps pour se diriger vers Dieu. Il y a beaucoup d'autres témoignages, et de ces témoignages divers a été retenue cette notion que la mort métaphysique se produit après la mort physique. Et d'ailleurs, l'Église a toujours eu la tradition, a longtemps eu, parce que c'est en train de se perdre aujourd'hui, la tradition de prier auprès du défunt, non seulement pour l'accompagner jusqu'au moment de son dernier soupir, mais aussi, une fois qu'il est mort, de l'entourer, de le veiller et de prier. L'ex-orandi, l'ex-credendi, cette tradition de prière traduit certainement une réalité. L'âme a encore besoin de notre prière, même après la mort physique. J'y reviendrai dans un instant. On pourrait se dire, bon, tout ça c'est des détails, est-ce que ça a vraiment tant d'importance ? Eh bien, ça a de l'importance parce que tant que la mort métaphysique n'est pas advenue, l'âme peut encore vivre des choses importantes et notamment des combats. Et justement, il peut être très important de prier pour elle pendant ces heures qui précèdent sa séparation du corps et l'entrée dans ce que l'on va voir tout à l'heure, le jugement. Alors, quelques mots sur ce combat qui peut intervenir au moment de la mort. D'abord, pour le mourant, avant son dernier soupir, avant la mort clinique, et puis ce combat qui peut se prolonger après la mort clinique. Donc, avant la mort clinique, voilà, il y a ce qu'on appelle l'agonie, l'approche de la mort. Et la tradition de l'Église, l'expérience de l'Église a toujours cru et vu que ce moment peut être un moment de combat. Ce combat risque d'être d'autant plus fort que l'âme est éloignée de Dieu, qu'elle s'est éloignée de Dieu pendant sa vie. Dans ce cas, plusieurs choses peuvent nourrir ce combat. La première chose, c'est la peur de mourir, qui est commune, bien sûr, à tous les hommes, d'une façon plus ou moins forte. Mais qui devient la peur de quitter le monde matériel qui a été la seule référence, c'est la principale référence des personnes qui n'ont pas eu de vie spirituelle pendant leur existence, qui n'ont vécu que dans le rapport au monde matériel. Ce combat peut être nourri aussi par l'incapacité de s'abandonner. Si on ne croit pas que quelqu'un va nous accueillir de l'autre côté, cette mort peut apparaître comme un inconnu, une entrée dans l'abîme dont on ne mesure pas le sens. Ça peut augmenter bien sûr le combat. Et puis il y a aussi la présence du péché dans l'âme qui obscurcit l'âme et l'empêche justement d'entrer dans une démarche de foi et de confiance. Tout cela peut donc être source d'un tourment qui parfois est visible chez les mourants. J'ai travaillé dans des services de soins palliatifs et il est sûr qu'on voit des gens qui meurent assez facilement en s'abandonnant, en étant assez paisibles, et puis d'autres qui sont tendus au moment de la mort, crispés sur le visage. Voilà, on voit bien que tous n'approchent pas la mort de la même façon. S'ajoute dans ce combat que Satan est actif, car c'est un moment déterminant où il veut chercher à s'approprier des âmes, à les perdre. Il cherche à faire entrer la personne dans son esprit de rébellion et de doute. Et si elle n'a pas un fort ancrage dans la foi, il peut parfois y arriver. Il peut agir d'autant plus sur elle, donc, qu'elle a souvent péché pendant sa vie sans se repentir, sans recevoir de pardon. Mais à côté de Satan, il y a heureusement du ciel la Vierge Marie, l'ange gardien de la personne, et bien des saints qui prient pour son salut et qui l'aident par leurs prières et leur intercession à se rapprocher et à recevoir la paix que Dieu veut donner. Mais dans ce combat, l'âme peut être tentée de désespérer, de rejeter Dieu, si dans sa vie, elle a orgueilleusement cultivé un esprit de rébellion contre Dieu. Elle peut aussi être tentée par un esprit cynique, si durant sa vie, elle a cultivé cet esprit. Elle peut vouloir retourner contre elle-même la violence ou l'absence de pitié dont elle a fait preuve envers les autres durant sa vie, et elle peut vouloir se condamner elle-même. C'est pourquoi l'Église encourage vivement à prier et à veiller auprès de ceux qui s'approchent de la mort, jusque dans les heures, comme je disais, qui suivent la mort. Il y a de nombreuses prières qui existent, qui ont été mises en place par l'Église pour accompagner ce moment. Il y a des prières particulièrement importantes. Il y a d'abord celles que le prêtre peut apporter aux mourants. La confession, bien sûr, ça peut être un moment privilégié pour revoir sa vie et remettre tous ses péchés à Dieu. Le viatique, c'est-à-dire la communion, la dernière communion du passage viatique. Un viatique, c'est le passage. Le Seigneur vient fortifier spirituellement l'âme pour ce moment du passage en se donnant à elle dans la communion. Il y a bien sûr le sacrement des malades, que l'on appelle à ce moment-là l'extrême onction, qui accorde aux mourants le pardon de ses péchés et la force de vivre spirituel, de vivre ce moment, parfois même la guérison. C'est déjà arrivé que des personnes à l'extrémité de la mort reçoivent le sacrement des malades et retrouvent totalement la santé d'une façon inattendue. Par exemple, c'était le cas de la petite Bernadette de Lourdes dans son couvent. On lui a même fait faire les vœux par anticipation parce qu'on croyait qu'il en était. Et puis on lui a donné le sacrement des malades et le lendemain elle était guérie. On a repris les vœux, on lui dit tu feras ça plus tard. Et puis il y a quelque chose de moins connu, mais de tout aussi, sinon plus important, c'est le prêtre peut donner la bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'indulgence plénière, c'est un truc extraordinaire. C'est tous les saints qui regroupent tous leurs mérites et qui les donnent à la personne pour que toutes ces peines, tout ce qui pourrait être les peines du purgatoire, soient retirées, soient compensées par les mérites des saints, et du coup, l'âme peut aller tout droit vers le Seigneur. Alors c'est quoi cette bénédiction apostolique avec indulgence plénière? Alors la bonne nouvelle, c'est que vous savez que chacun de vous, vous pouvez déjà dès aujourd'hui demander l'indulgence plénière pour le moment de votre mort. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous y pensez peut-être pas, ça veut... Voilà. C'est Pie X, Saint Pie X, qui a... Mis en avant cette indulgence plénière. Pour la recevoir, il faut la disposition suivante au moment de la mort. Alors on peut déjà la choisir aujourd'hui, mais il faut qu'elle demeure jusqu'au moment de la mort. Mais c'est pas mal de s'entraîner, d'y réfléchir. Voilà, je vous donne la phrase, mais ce qui est important, c'est l'attitude du cœur. Seigneur mon Dieu, dis aujourd'hui, j'accepte de votre main, volontiers et de grand cœur, le genre de mort qu'il vous plaira de m'envoyer, avec toutes ses angoisses, toutes ses peines et toutes ses douleurs. Vous voulez l'indulgence plénière? Ça ne dure pas très longtemps, après ça évite ça peut éviter le purgatoire, donc c'est quand même pas mal. Donc, se mettre à disposition, parce que notre Dieu est bon, il est miséricordieux, donc il ne va pas nous accabler de douleurs, d'angoisses, etc. Donc, c'est la confiance dans la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et le fait de, eh bien, de dire, je te fais confiance, je m'abandonne, et j'accepte que si le moment de ma mort doit contenir des éléments de pénitence qui me permettent d'aller directement au ciel après, eh bien, je l'accepte volontiers dès maintenant. Et avec cette indulgence plénière, cette indulgence plénière est soutenue par la bénédiction apostolique du prêtre. Excusez-moi, parce que je ne connais pas le texte par cœur. Voilà, qui donne cette bénédiction. Je vous en donne une des formules, il y en a plusieurs. Dieu, dans sa puissance, a tout disposé dans son Église pour que le pécheur se relève et qu'il vive. Qu'il vous pardonne vos péchés, élève toute peine qui en découle, qu'il vous ouvre les portes de la vie et vous attende dans son royaume. Voilà, la bénédiction apostolique qui ouvre à l'indulgence plénière, celle-ci demandant effectivement que le mourant soit dans les dispositions que j'ai dit jusqu'à maintenant, juste précédemment, qu'il s'abandonne à la volonté de Dieu en acceptant humblement le type de mort qui est la sienne. C'est merveilleux tout ça, n'est-ce pas? Alors, à côté de ces quatre prières qui sont données par le sacerdoce ministériel, bien sûr, il y a d'autres prières qui peuvent être dites auprès du mourant. Bien sûr, en premier, le chapelet, le rosaire. Et à l'heure de notre mort, chaque « Je vous salue Marie » et à l'heure de notre mort. Et nous savons combien la Vierge Marie est présente auprès de tous les mourants. Elle s'y est engagée pour intercéder pour eux. Il y a aussi le chapelet de la miséricorde, ce chapelet que Jésus a recommandé à Sœur Faustine, Sainte Faustine, j'y reviendrai dans un instant. On peut dire la litanie des saints auprès d'un mourant, mais on peut dire aussi toute autre forme de prière. Il y a en revanche deux prières que je voudrais vous dire, qui appartiennent à la tradition et qui sont très belles. Et malheureusement, tout cela, ce sont des prières qu'on a oubliées parce qu'aujourd'hui, les gens meurent dans les hôpitaux, ils ne sont plus à la maison, on ne les entoure plus de la même façon. Alors on a laissé de côté ces belles prières qui pourtant ont une puissance aussi bien dans le sens que dans l'efficacité. Juste avant le dernier soupir, au moment où on voit que la personne est en train de partir, on peut lui dire cette prière. « Maintenant, tu peux quitter ce monde, âme chrétienne. Quitte-le au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit, qui a fait sa demeure en toi par la grâce du baptême. Qu'aujourd'hui tu vives dans la paix, que ta demeure soit auprès de Dieu, dans l'Église du ciel, avec la Vierge Marie, la Sainte Mère de Dieu, avec Saint Joseph. » On est rentré dans la solennité de Saint-Joseph, avec, on peut dire là, tous les saints patrons de la personne, de sa famille, et avec tous les anges et tous les saints de Dieu. Voilà une belle prière qui élance l'âme vers le Seigneur. Je me souviens, un jour j'étais justement en soins palliatifs, alors j'étais encore un tout débutant dans la foi, mais Je vais visiter un de mes patients et je vois qu'il était prêt de partir et que c'était pas très paisible. Et je me souviens que je lui mets la main sur mon front, je me recueille et je prie. Je crois que j'ai prié la Vierge Marie à ce moment-là. Je crois que j'ai dit un « Je vous salue Marie » ou deux, je ne sais plus. Et j'ai senti sous ma main le front qui se détendait et tout d'un coup, il a fait son dernier soupir, il est parti. Et j'ai rendu grâce parce que je me suis dit qu'il avait sûrement besoin de cette petite prière pour l'aider à lâcher prise dans le dernier moment. Et alors il y a aussi une prière juste après le dernier soupir, quand la personne vient de décéder. Je vous la lis. Il y en a d'autres, bien sûr, je vous en lis deux à titre d'exemple, pour voir combien on mettait de sens à prier auprès de ces personnes. « Venez, Saint du Ciel, portez-lui secours, allez à sa rencontre, ange du Seigneur. Venez accueillir notre frère et le présenter devant la face du Très-Haut. Jésus-Christ t'a appelé et qu'il t'accueille auprès de lui et que les anges t'introduisent dans les demeures du ciel. Accorde-lui, Seigneur, l'éternel repos et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. » C'est beau ces prières. Elles sont dans les rituels que les prêtres ont pour accompagner les mourants dans ces derniers moments. Alors, Sainte Faustine, je reviens vers elle, a souvent témoigné de l'aide accordée par la prière pour les agonisants. Je vous lis une phrase dans le petit journal numéro 812. « Aujourd'hui, j'ai lutté contre les esprits des ténèbres à propos d'une âme. » Jésus lui a donné l'arme du chapelet de la miséricorde en promettant ceci. C'est dans le petit journal numéro 811. « À l'heure de la mort, je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce chapelet elle-même ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant. » Jésus défend l'âme comme sa propre gloire. Voilà. Sainte Faustine avait le charisme, parmi beaucoup d'autres, de sentir quand le combat de l'âme agonisante était terminé. Elle témoigne que parfois un « Je vous salue Marie » suffisait, mais que d'autres fois il fallait un chapelet entier ou même beaucoup plus. Elle disait « Si j'éprouve une inquiétude intérieure, c'est que l'âme soutient une plus grande lutte et une plus longue agonie. » Voilà, donc Sainte Faustine témoigne à travers ce don mystique de ce combat de certaines âmes et de l'importance de la prière auprès d'elle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre maintenant là-dessus, il vaut la peine de prolonger cette prière après la mort clinique, pendant les heures qui suivent, pour soutenir l'âme dans ce dernier passage. Alors peut-être qu'en entendant cela, certains vont se dire « Oh, mais si j'avais su ça plus tôt, quand ma mère, mon père est mort, j'aurais peut-être prié davantage auprès de lui, auprès d'eux. » Alors, peut-être vous dire quelque chose de surprenant, parce que je viens de dire que c'était très important de prier auprès des personnes, etc. Mais il n'est pas trop tard aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous. C'est au-delà du temps et de l'espace. Mais Dieu, au moment où votre proche était en train de partir, il voyait déjà ce que vous allez faire maintenant ou demain. Et donc, si vous vous dites « j'ai pas suffisamment prié pour mon père, ma mère, etc. », eh bien, faites-le demain, de tout votre cœur. Et Dieu, au moment où votre défunt est parti, il a vu qu'aujourd'hui, demain, vous alliez prier pour lui. Et il a pu lui accorder les bienfaits de votre prière. C'est pas moi qui invente ça, hein. c'est pas du père Christophe, hein. c'est la vérité sur ce que nous croyons de Dieu et de la puissance de notre prière. Alors j'en viens maintenant au jugement. Donc vous savez qu'on parle de deux jugements, le jugement particulier et le jugement dernier. En fait, ce sont deux étapes d'un seul jugement. L'un, le jugement particulier, intervient au moment de la mort métaphysique, hein, et va déterminer la destinée de l'âme, son salut. L'autre, le jugement dernier, n'est pas un nouveau jugement, mais c'est une mise en perspective du jugement particulier mise en perspective avec toute l'histoire de l'humanité, tout le plan du salut. Donc ce sont deux dimensions d'un seul jugement de l'âme, et je vais essayer de vous expliquer chacun de ces jugements. J'insisterai un petit peu plus sur le jugement particulier, parce qu'il a peut-être plus de conséquences immédiates pour nous. Alors, précisons les choses tout de suite, le jugement particulier, ce n'est pas un grand tribunal qui se présente. Vous arrivez tout tremblant devant le tribunal en disant « Oh là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et puis, Dieu est un grand magistrat sur un trône avec des anges autour qui vous regardent avec des yeux scrutant votre conscience. Hein. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de défenseur de la cause. Et Dieu ne va pas prononcer solennellement un verdict pour vous dire ce qui va vous arriver. Donc, ce n'est pas un jugement dans un tribunal à l'image des jugements humains. Même si, parfois, on a utilisé ces images-là pour en parler. Et pourtant, il y a bien réellement un jugement. Alors, essayons de comprendre. Pour faire simple, le jugement particulier est le jugement de l'âme au moment où elle meurt, où elle se détache du corps. Et la notion de jugement signifie que chaque âme, après sa mort, a un sort qui lui est propre et qui est différent pour chacun, parce que ce sort va dépendre de ce qu'elle aura fait pendant sa vie. Cette notion de jugement est présente dans les Saintes Écritures, déjà dans l'Ancien Testament, et notamment à travers le livre des Maccabées. Dans le deuxième livre des Maccabées, vous savez que des guerriers sont trouvés morts avec des amulettes qui portent sur eux, ce qui était un péché d'idolâtrie. Et donc on considère qu'ils sont morts, c'est parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et Judas Maccabée appelle à prier pour ces guerriers pécheurs. Et s'il appelle à prier pour ces guerriers pécheurs, c'est bien qu'on avait conscience que le sort de l'âme n'était pas le même pour tout le monde après la mort. Mais c'est dans le Nouveau Testament que revient plus souvent cette question. Jésus prévient souvent « il y aura des pleurs et des grincements de dents », faisant allusion du sort après la mort pour les hypocrites et ceux qui ont fait le mal. Souvenons-nous de la parabole du pauvre Lazare qui va dans le sein d'Abraham, tandis que le riche, qui a vécu égoïstement, part dans les enfers. Souvenons-nous aussi de l'attitude du Christ en croix vis-à-vis des deux larrons. Devant le larron qui se repent, il lui promet le ciel. À l'autre, il ne promet rien, il aura son sort. Il y a bien sûr aussi des textes de Jésus dits apocalyptiques, c'est-à-dire qui parlent de la fin du monde, et donc qui parlent du retour en gloire du Christ, et donc davantage du jugement dernier. Mais s'il parle du jugement dernier, il parle bien d'un sort différent pour les personnes selon ce qu'elles auront fait pendant leur vie, les brebis d'un côté, les boucs de l'autre. Vous connaissez bien cette parabole. Et Jésus dit un moment dans une autre parabole, « L'un sera pris, l'autre sera laissé. » Deux personnes seront dans le même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ce n'est pas parce qu'on est mari et femme qu'on aura le même sort après la mort. Mais on retrouve aussi dans saint Paul des paroles assez explicites. « Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition c'est de plaire au Seigneur, car il nous fera tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ. » Donc saint Paul utilise le mot « tribunal », mais comme je l'expliquerai, ce n'est pas l'image que l'on en a. « Pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était encore dans son corps. » Très clair, hein, saint Paul, là. L'Épître aux Hébreux affirme, donc c'était 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10. L'Épître aux Hébreux affirme, chapitre 9, verset 27, « Le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis d'être jugé. » Et encore, un peu plus loin au chapitre 12, « Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous. » Chapitre 12, verset 23. Donc, s'appuyant sur ces textes et d'autres encore, je ne suis pas exhaustif, l'Église, conduite par l'Esprit-Saint, accompagnée aussi de nombreux témoignages dans la vie des saints, va apporter d'autres précisions. C'est surtout au XIIIe et au XVIe siècle, dans différents conciles, que la doctrine du jugement particulier, du jugement dernier, vont être précisées. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, ce serait beaucoup trop long, mais je vous cite comment le catéchisme de l'Église catholique en parle pour résumer la position de l'Église. C'est au numéro 1022. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Il s'agit donc de, je reprends un peu cette définition du catéchisme, quelque chose qui se passe dès la mort, on l'a bien dit, c'est-à-dire dès la mort métaphysique, dès que l'âme est séparée du corps. D'où, comme je le disais, la nécessité de cette prière. Le catéchisme dit « chaque homme dans son âme immortelle ». Donc cela concerne chaque personne humaine. Personne n'échappe à ce jugement. Ce jugement a lieu parce que l'âme est immortelle, créée à l'image de Dieu, donc créée libre et donc capable de se déterminer, de choisir. Elle est créée pour la vie éternelle. Elle reçoit, dit le catéchisme, sa rétribution éternelle, ce qui veut dire que quelque chose de très sérieux se passe à ce moment-là, qui va déterminer toute la suite, son sort pour l'éternité. Soit elle est sauvée pour toujours, soit elle est damnée pour toujours, nous dit le catéchisme. Il parle de rétribution, ce qui veut dire que ce qui se décide est en lien avec les fruits bons ou mauvais des actions posées pendant notre vie. Et enfin, il dit que ce jugement se produit car l'âme est réfère sa vie au Christ. Le jugement est donc une confrontation de notre existence à la personne du Christ, à sa parole, à sa vérité, à sa vie. On est jugé du fait que Jésus est venu sauver le monde. Ses paroles et ses actes sont le point de référence de ce jugement. Alors regardons d'un peu plus près en quoi consiste précisément ce jugement, autant qu'on puisse en parler. Ce jugement n'est pas un jugement qui vient de l'extérieur et que l'âme va recevoir de l'extérieur. C'est l'âme elle-même qui, de l'intérieur de son expérience, se trouve référée au Christ. C'est-à-dire qu'elle va se trouver éclairée en elle-même d'une lumière qui vient de la gloire de Dieu. Je cite un théologien très connu qui s'appelle Don Garrigou Lagrange et qui explique les choses ainsi. Au moment du jugement, l'âme ne voit pas Dieu, autrement elle serait béatifiée, elle serait au ciel, elle n'y est pas encore. Elle ne voit pas non plus l'humanité du Christ, sauf faveur exceptionnelle. Mais par une lumière infuse, qui la pénètre, elle connaît Dieu comme souverain juge et aussi le Rédempteur comme juge des vivants et des morts. Cette lumière va faire connaître instantanément à cette âme la vérité sur elle-même et sur Dieu. Dans sa bonté, Dieu ne va pas écraser l'âme. S'il se révélait dans sa gloire, elle ne le supporterait pas, comme quand on veut regarder le soleil, nos yeux sont brûlés, et si on vient de l'obscurité, c'est encore pire. Donc Dieu va adapter sa lumière aux conditions de l'âme, mais il va le faire de façon à ce que cette âme perçoive clairement qui il est et qui elle est elle-même, ce qu'elle est et ce qu'elle a fait. Par cette lumière, donc, l'âme connaît Dieu et le Rédempteur comme juge des vivants et des morts. Elle perçoit et comprend clairement que Dieu est amour, qu'il est infiniment miséricordieux, qu'il veut la sauver, et elle voit aussi qu'il est vérité et justice. L'âme est mise aussi en même temps en face de la vérité de sa vie, qu'elle revoit instantanément, en une seule fois. Elle revoit toute sa vie dans le détail, tout le bien qu'elle a fait et tout le mal qu'elle a fait. Et c'est de la jonction de ces deux connaissances, la connaissance de sa vie telle qu'elle a été et la connaissance de la vérité sur Dieu, qu'elle va se positionner intérieurement. L'âme doit faire face à la vérité de sa situation. Elle se découvre telle qu'elle est. Elle a une connaissance absolument précise de toute sa vie. C'est une connaissance que nous n'avons pas ici-bas. Nous ne pouvons pas avoir une connaissance instantanée, une mémoire instantanée de toute notre vie, de tout ce qu'on a oublié, de tout ce qui a été vécu. Tout est présent à la vue de son âme. On ne sait pas la façon dont l'âme a accès à cette connaissance parce que ce n'est pas une expérience qu'on a ici-bas. Des personnes qui ont fait l'expérience des EMI ont eu des fois cette expérience dans leur âme séparée du corps, mais ils ne peuvent plus en parler ici-bas parce qu'ils n'ont pas les mots pour dire ce qu'ils ont vécu exactement. L'âme ne peut rien se cacher à elle-même. Vous vous souvenez de la parole de Jésus en Matthieu 10, 27, « Rien est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. » Le juste juge donne donc à la personne ce regard de vérité sur elle-même, et plus sur cette terre elle a exercé son examen de conscience régulièrement, plus elle a appris à remettre ses péchés à Dieu, à en demander pardon, et plus elle verra sa vie dans la lumière du Seigneur Sauveur, puisque tous les péchés pardonnés et expiés n'apparaîtront plus à sa vue à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est tellement important pour chacun d'entre nous de ne pas négliger cet examen de conscience régulier et de demander régulièrement pardon à Dieu pour nos fautes, parce que si nous ne le faisons pas régulièrement, nous oublions beaucoup de choses que nous ne remettons pas à sa miséricorde, mais que nous retrouverons au moment où le jugement sera prêt. Donc, l'âme, à ce moment-là, va entrer dans un jugement selon qu'elle accepte de s'abandonner à Dieu ou qu'elle n'accepte pas de s'abandonner à Dieu. À ce moment-là, l'âme voit clairement que s'abandonner à Dieu, ça peut vouloir dire pour elle aller directement au ciel, entrer dans un temps de purification plus ou moins grand. Elle voit clairement qu'elle est accordée ou qu'elle n'est pas du tout accordée à Dieu. Elle sait pertinemment ce que son oui à Dieu veut dire. Elle sait que Dieu est amour, que Dieu veut la sauver et qu'elle peut choisir la vie éternelle. Et c'est en cela que consiste le jugement particulier. Mais l'âme, aussi étrange que cela puisse paraître, peut aussi refuser d'accepter de s'en remettre à Dieu, d'accepter que Dieu lui montre ses péchés et qu'elle ait à en vivre une purification. Et elle peut choisir de se damner. Cela fait vraiment partie de la foi de l'Église. Cela fait partie de la foi en la liberté totale que Dieu donne à l'âme. Et cela fait partie aussi de notre ressemblance avec Dieu, cette liberté qui nous est donnée. Alors, avant de passer au jugement dernier, où je serai un peu plus bref, ne vous inquiétez pas, permettez-moi de résumer les points essentiels de ce que je viens de dire. Le jugement particulier a lieu au moment où l'âme se sépare du corps. Immédiatement, il détermine sa destinée éternelle. C'est l'âme elle-même qui choisit d'être sauvée ou non. Ce choix est fait dans une mise en vérité de sa vie et de l'état de son âme et dans une connaissance certaine de la sainteté et de la miséricorde de Dieu. Au moment où l'âme choisit, elle sait si son choix la conduit au ciel ou au purgatoire ou en enfer. Et dans l'agonie, jusqu'à la séparation du corps, l'âme peut vivre un dur combat si elle a été loin de Dieu pendant sa vie et souvent soumise au péché. Et la prière de l'Église en sa faveur a une grande importance, car si elle mène ce combat et se laisse toucher par un esprit de rébellion ou de cynisme, elle est vraiment en danger. Alors j'en viens maintenant au jugement dernier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le jugement dernier, ce n'est pas un nouveau jugement, c'est un complément, c'est une mise en perspective de ce que le jugement particulier montrait déjà à l'âme. La première chose est que ce jugement intervient quand l'histoire de l'humanité sera achevée, à la fin des temps. Cela correspondra, comme le dit le catéchisme et toute la foi, au retour glorieux du Christ. Cela correspondra aussi, après ce retour glorieux, à la résurrection de la chair. Donc, numéro 1040 et 1038 du catéchisme de l'Église catholique. Retour glorieux du Christ, résurrection de la chair, jugement dernier. Au jugement dernier, l'âme connaîtra toute chose. Elle connaîtra notamment l'implication de sa vie dans l'histoire de l'humanité et le plan du salut. C'est-à-dire qu'elle saura de la façon dont elle a réellement contribué ou pas au plan du salut et à l'histoire de l'humanité. Même si l'âme est damnée à ce moment-là, elle connaîtra la façon dont sa vie a soit blessé l'humanité, soit aussi si ses actions bonnes ont aidé l'humanité à grandir. Et cela lui fera d'autant plus de mal qu'elle aura renoncer, refuser la miséricorde de Dieu. Dans le jugement particulier, tout cela, donc, comme je disais, est déjà présent, car Dieu connaît toutes choses. Mais au moment du jugement particulier, l'âme ne voit sa situation que dans l'immédiat. Elle a la connaissance que du retentissement immédiat de ses actes dans la vie qu'elle a eue sur la terre. Elle voit par exemple les injustices qu'elle a commises et les conséquences immédiates que ces injustices ont pour ceux qui en ont été victimes, mais elle ne voit pas les répercussions de cela dans l'histoire de l'humanité et dans le plan du salut. Le catéchisme dit ceci, au numéro 1039, « Le jugement dernier révélera, jusque dans ses ultimes conséquences, ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. » Donc nous verrons toutes les conséquences de notre vie terrestre et la façon dont nous avons contribué, participé au plan de Dieu ou non, en fonction des dons que Dieu nous avait donnés. Il ne donne pas à chacun les mêmes dons, il ne demande pas la même contribution à chacun, mais chacun verra clairement comment il a été fidèle ou pas aux dons qu'ils lui ont faits et comment ces dons ont contribué d'une façon juste ou pas au plan de Dieu. De ce point de vue-là, l'histoire de la pauvre veuve est très éclairante. Elle a donné plus que tous les autres, pourtant elle n'a donné que deux piécettes, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Voilà, on aura des surprises au moment du jugement dernier, de voir comment des gens très humbles, qui ont fait aucun bruit, que personne n'a remarqué, ont contribué d'une façon édifiante au plan de Dieu et du salut, alors que d'autres, qui étaient en vue, dont tout le monde admirait les œuvres, finalement, n'ont peut-être pas utilisé jusqu'au bout les dons qui leur avaient été faits. Un autre élément important, et je terminerai par ça, cette fois-ci, j'en ai plus qu'un petit paragraphe à vous lire. À ce moment-là, chers frères et sœurs, enfin, nous verrons et nous comprendrons le pourquoi des choix de Dieu. Nous comprendrons comment sa providence divine a conduit les choses depuis le commencement. Pourquoi un tel a vécu telle maladie, tel handicap, a reçu telle grâce, etc. Nous verrons comment la sagesse de Dieu et l'œuvre admirable de sa providence, qui a donné à l'homme la liberté, qui a respecté cette liberté jusqu'au bout, tout en multipliant les moyens pour aider les hommes à parvenir au salut, comment cette sagesse et cette miséricorde ont œuvré. Je vous lis le catéchisme au numéro 1040. Par son Fils Jésus-Christ, Dieu prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut, et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par les créatures et que son amour est plus fort que la mort. Nous comprendrons donc l'histoire de l'humanité, nos histoires personnelles, à la lumière de ce plan d'amour de Dieu, de la façon dont il l'a conduit et la façon dont nous avons coopéré plus ou moins à ce plan d'amour dans l'histoire de l'humanité. Voilà donc les deux jugements, voilà donc le passage de la vie à la mort. Et donc la prochaine conférence rentrera plus dans le détail de se dire qu'est-ce qui se passe quand on a accepté le jugement de Dieu, hein, quand on a accepté ce jugement particulier. Voilà, on peut aller au ciel, au purgatoire ou en enfer, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Merci de votre attention et de votre patience.
Merci beaucoup. Je vous propose, sans plus de transition, de vous mettre par petit groupe de 6 pour un temps de partage. Je rappelle que le partage c'est extrêmement simple. On utilise le mot jeu, on dit jeu, j'ai touché, ou je retiens spécialement une chose. Et à la fin de ce partage, on dit juste amen. Comme ça, son voisin. C'est qui peut enchaîner. Merci d'être assez bref. On a 15 minutes pour le partage, 15 minutes pour l'adoration. Vous n'avez pas besoin de même que la dernière fois, soit comme vous voulez. En tout cas, ça fonctionne dans les quarts d'heure, il faut partager une chose, pas raconter sa vie. L'idée, c'est de nous édifier les uns les autres et de faire un exercice de mémoire. Merci beaucoup, à tout de suite, nous allons retourner vers ceux qui sont à côté de vous.
Non, il ne faut pas se réveiller.